un esprit libre dont vous allez parler pendant une heure encore pour vos travaux publics.
Eh bien oui, on va parler de Jean-François Revel ce soir au 35 boulevard Saint-Germain. À Elsour, je ne sais pas ce qu'il aurait écrit de l'affaire Anke Comédie Française. En tout cas, il n'aurait pas mis un mois à découvrir que Anke était à l'enterrement de Milosevic. Et puis, il aurait su depuis longtemps les positions de Anke sur l'ex-Yougoslavie. Il aurait lu Louise Lambrix. Il serait remonté aux sources. Mais alors, n'essayons pas de refaire les papiers que presque jusqu'au bout Jean-François Revel a rédigé pour Le Point. Je présente nos deux invités. Philippe Meyer, bonsoir.
Bonsoir.
Il a arrêté les répétitions pour nous rejoindre.
C'est ça. Je ne crois pas que l'événement soit cosmique.
Vous ne pensez pas que l'événement soit cosmique. Merci en tout cas d'avoir interrompu vos activités pour parler de Jean-François Revel. Jean-François Revel détestait les journalistes qui le sollicitaient en s'adressant comme à lui comme à une station service ouverte à toute heure.
Oui, il détestait ça et en même temps, il se reprochait souvent à lui-même de ne pas savoir toujours dire non, parce que c'était vraiment un homme d'une extrême gentillesse. Et donc, il ne savait pas très bien dire non, il se l'est beaucoup reproché, et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que commencent ses mémoires. Il dit quelque chose comme, c'est vers l'âge de 19 ans que j'ai commencé à me demander pourquoi et à quel moment ma vie, la conduite de ma vie m'avait échappé. Et d'une certaine manière, bien que la conduite de sa vie lui ait fort heureusement pas entièrement échappé, mais une partie lui aura sans doute échappé à cause de cette extrême gentillesse qui faisait qu'il disait rarement non.
Oui, enfin, il a aussi extrait de ses mémoires un chapitre contre les intrus et les fâcheux qu'il a publié dans commentaires. Il n'était pas toujours aimable à qui n'était pas comme vous, Philippe Meyer. Avec qui n'était pas toujours aimable, avec qui n'était pas comme vous, Philippe Meyer, de ses intimes, puisque vous l'avez beaucoup fréquenté. Ce qui n'est pas le cas de Pierre Grémion. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Pierre Grémion, CNRS, il vient de publier un livre sur la période décisive et en même temps période de transition des années 68-81, à la fin de laquelle Jean-François Revel dirigeait l'Express avec à ses côtés Philippe Meyer. Alors, on est tout près de chez Jean-François Revel, l'île Saint-Louis. Dans ces années 68-81, au début de ces années, le Premier ministre ou le Président de la République, c'était Georges Pompidou, son voisin, et Revel disait, c'est formidable, j'arrive, je claque d'un geste magistral la portière de ma voiture, on me prend pour quelqu'un de l'entourage de Pompidou et je peux me garer tranquillement à l'île Saint-Louis. Hein.
Il ne déniait pas ce genre de plaisanterie, parce que moi, c'était un vieil Ilien, son appartement donne sur Notre-Dame.
Alors, Pierre Grémion, lui, c'est un spécialiste de la principauté de Saint-Germain-des-Prés.
Non, pas un spécialiste.
Qu'est-ce que c'est la principauté de Saint-Germain-des-Prés?
Je pense que c'est une définition que je donne du progressisme français. C'est un des trois éléments du progressisme d'après-guerre.
Oui.
D'un côté, ce sont les cagnes, l'éducation nationale avec les agrégés de philo, les agrégés d'histoire, enfin ce milieu cagneux qui représente un milieu très important dans l'après-guerre. Le deuxième, c'est banal, enfin c'est tout le système construit, le système littéraire autour de Aragon et d'Elsa Triolet, et effectivement le troisième élément, c'est Saint-Germain-des-Prés avec Sartre et Simone de Beauvoir qui je dis principauté parce qu'il y a une forme d'exterritorialité de Saint-Germain-des-Prés, et Sartre représente la conscience progressiste du monde. Il est reçu d'ailleurs comme un chef d'État quand il visite, quand il voyage, etc., etc. Voilà.
Alors ici, nous sommes non loin
donc,
de
c'est
l'île
Saint-Louis, c'est pas l'île Saint-Louis,
où vivait Revel, marié avec le succès dès les années 50, non loin de Saint-Germain-des-Prés, où il ne trônait pas. Nous sommes dans une zone neutre. On va pouvoir commencer par l'essentiel. On ne va pas présenter Revel comme un provincial de Marseille ou un Marseillais habillé en Marseillais quand il fréquentait la Bretagne. Non, on va le présenter comme ce qu'il était aussi, un homme international. Alors c'est un homme qui parlait plein de langues, Philippe Meyer, le grec, le latin.
Le grec et le latin, ça va de soi.
Ça va de soi,
il parlait de surcroît l'italien avec beaucoup de plaisir, l'espagnol avec énormément de plaisir, l'anglais très bien, il ne parlait pas beaucoup l'allemand, mais il le comprenait parfaitement, il le lisait tout à fait.
Alors l'espagnol, vous direz combien c'était un épicurien, souvenir d'une émission avec lui au café de Cluny, voisin d'ici.
Un mojito, le cocktail de Cuba, sí. Bienvenidos a los amigos de Cuba, sí.
Sí, ¿usted cuánto tiempo estuvo en Cuba?
Sí. Solo dos meses, sí. Soy ya des Français et faire des voyages à Cuba pour les business et pour les amis aussi.
Okay. Ah si, si, si. Muy bien. Alors revenons aux Français, parce que peut-être pour les auditeurs c'est préférable. Mais en effet, ce cocktail cubain, je m'empresse de rassurer les auditeurs, est une plaisanterie, parce qu'à 7h du matin, cubain ou pas cubain, je n'absorbe pas de cocktail.
Bon, c'était pas de très bon goût d'offrir un cocktail cubain à qui observait l'Amérique latine sans les œillères castristes. Hommage, ça c'est plus juste, de Mario Vargas Llosa, qui hier fêtait à Paris ses 70 ans et qui connaissait Jean-François Revel, disparu à 82 ans depuis plus d'un quart de siècle.
Il était un des écrivains français, européens, qui connaissait très très bien l'Amérique latine. Hein. Il avait passé 2 ans au Mexique comme professeur à l'Institut français. Et dès lors, il s'avait intéressé énormément à l'Amérique latine. Il avait beaucoup lu sa littérature. Il connaissait l'histoire de l'Amérique latine et suivait la vie politique. Chaque fois qu'il a écrit sur l'Amérique latine, et il l'a fait plusieurs fois, hein, il disait des choses énormément importantes, avec une connaissance riche et objective, et en défendant toujours les nuances, en marquant toutes les différentes circonstances de chaque pays. Et il a contribué beaucoup à rompre hein, les préjugés, les stéréotypes, les liens communs qui sont si fréquentes dans la vision que surtout les journaux, hein, les moyens de communication européens ont de l'Amérique latine.
Alors Philippe Meyer, en Amérique latine, il siégeait plutôt entre Octavio Paz et Mario Vargas Llosa, qu'on vient d'entendre.
Oui, plutôt qu'à côté de Gabriel García Márquez, si c'est ce que vous voulez dire, en raison de, non pas sur le plan littéraire, parce qu'il avait une grande admiration pour la littérature de García Márquez, mais en raison des positions extrêmement castristes de Gabo, comme on dit en Amérique latine, de Gabriel García Márquez. Et en effet, oui, il était plutôt de ce côté-là, mais c'est ce que vient de dire Mario Vargas Llosa est évidemment vrai, c'est-à-dire que la connaissance de l'Amérique latine de Jean-François Revel était due à beaucoup de choses, notamment à un très long séjour au Mexique, au cours duquel il avait fondé le premier ciné-club mexicain, de pair à égal avec Luis Buñuel, qui était son ami. Ça, c'est une des choses les plus étonnantes de la vie de Revel, c'est qu'on se demande quelquefois ce qu'il n'a pas fait, à part du patinage artistique, on se demande ce qu'il n'a pas fait, et quand il a fait quelque chose, il l'a fait de telle manière, non pas qu'il avait, enfin, c'est pas l'impression en tout cas qu'il me donnait, de vouloir passer des concours toute sa vie, mais c'est ce goût qu'il avait de tourner autour d'un même récif jusqu'à ce qu'il en ait vu à peu près toutes les facettes. Alors, qu'il s'agisse de cuisine, qu'il s'agisse de musique, qu'il s'agisse de littérature, qu'il s'agisse de politique, qu'il s'agisse d'amitié, qu'il s'agisse de voyage, il était une ressource et un appui inépuisable.
Alors l'Amérique latine, les États-Unis, Alexis Patovsta, vous avez préparé cette émission, puisé dans les archives de France Culture quelques extraits des interventions de Jean-François Revel. On en entendra plus longuement à la fin du mois de mai dans le cadre de Mémorable. Vous avez aussi essayé de voir quelle réaction la mort de Revel, qui se présentait en France comme un grand ami des États-Unis, avait provoqué outre-Atlantique.
Oui, bonsoir. En fait, les États-Unis viennent de perdre leur meilleur ami français sans peut-être l'apercevoir. Au moins, ma lecture brève sur les articles, enfin, des articles sur Internet, me convainc dans cette hypothèse, à savoir qu'un seul article sérieux, c'est-à-dire venant de la presse traditionnelle, qui a publié un long article dédié à la mémoire de Jean-François Revel, c'est l'article du New York Times, signé Douglas Martin, c'est à peu près 5000 signes, donc tout à fait estimable, long récit biographique et une idée. Jean-François Revel était celui qui a expliqué les États-Unis aux Français. Et peut-être ça explique pourquoi, effectivement, les autres organes de presse américains n'ont pas rendu compte de cet événement. Ça veut dire qu'il n'a pas participé au débat américain à l'intérieur des États-Unis, au moins pas ces peut-être 10-15 dernières années. En revanche, dans la sphère privée, dans la blogosphère, sur les journaux privés, on retrouve plusieurs billets assez donc assez intéressant, je vais essayer de traduire en même temps que je lis. Jean-François révèle that rare instance of a French intellectual who doesn't despise the West and America in particular. Donc Jean-François révèle cette rare espèce d'intellectuel français qui ne déteste pas l'Occident et les États-Unis en particulier. Et ensuite un billet très intéressant d'un ancien employé de Foreign Service, qui doit être le ministère des Affaires étrangères. It was a great sadness that I know the passing of the great French philosopher. Yes, my conservative friends, such a thing does exist. Donc, mes amis conservateurs, vous savez, la philosophie française, ça existe. Et en fait, explique l'auteur qui signe ses articles New Sisyphus, le nouveau Sisyphe, révèle a toujours défendu les valeurs qui sont partagées par tous les Américains, de gauche comme de droite, à savoir la liberté individuelle, la liberté par rapport à l'État et par rapport à la corporation, la liberté de parole, la liberté de l'action et la liberté de la création, même de la création de richesses.
Je ne veux pas m'introduire dans la sphère privée d'une de nos auditrices fétiches que je présente à Philippe Meyer, c'est Hélène Starozoum, mais elle me disait avant l'émission qu'ayant eu des relations étroites avec un agent de la CIA, le dit agent lui recommandait la lecture de Revel.
Ah non, moi il n'avait pas à me le recommander parce que je l'avais acheté. J'attendais d'ailleurs que de l'apprendre par symbiose, parce que je n'ai toujours pas lu, j'ai pas eu le courage. En revanche, lui, ça faisait partie de son travail. Il fallait qu'il étudie Neither Mark nor Jesus, parce qu'un agent de la CIA doit semer le bon grain, ou l'ivraie, comme on veut. Et il faut savoir aussi ce que les autres disent du bon grain, de l'ivraie, ou de je ne sais quoi.
Ça y est, Pierre Grémond, là, vous voyez bien une tradition rhétorique française, l'ami des États-Unis, nécessairement des liens, comme autrefois votre cher congrès pour la liberté de la culture, avec l'argent souterrain américain.
Oui, mais précisément, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que là, alors, vous m'avez présenté avec mon chapeau CNRS, je crois qu'il faut effectivement mettre en contexte ni Marx ni Jésus, parce que je crois que, enfin moi, une chose qui me frappe chez Revel, c'est que c'est un homme qui a des succès, et que ce sont des succès qui vont déterminer des moments de sa carrière. Le premier succès, c'est Pourquoi des philosophes. Bon, 56, ça fait 50 ans d'ailleurs, et ensuite ni Marx ni Jésus. Alors il ne s'est pas tellement expliqué dans ses mémoires sur les circonstances de l'écriture de ce livre. En revanche, il en a parlé dans son dernier livre, d'ailleurs, sur l'anti-américanisme. Alors, je dirais qu'il faut situer le texte et le contexte de Revel. Alors, le texte, c'est une histoire entre Time Magazine, qui veut faire une édition française à Paris, et finalement, à ce moment-là, il travaille à l'Express, et Time Magazine lui payait 3 semaines ou 1 mois à New York, et par décence, il se dit, je vais quand même avertir Servan Schreiber et Françoise Giroud. Et il y va, et on lui dit, non, absolument pas. Allez, il retourne l'argument, et il dit à Françoise Giroud, écoutez, moi j'aimerais bien aller aux États-Unis. Et immédiatement, elle lui dit, vous payez le nombre de mois que vous voulez, vraiment avec tous les frais payés. Et ça, c'est le texte. Mais le contexte, c'est évidemment qu'à l'époque, Servan Schreiber est quand même le candidat favori du département d'État pour succéder à De Gaulle. Et que il y a eu réunion très importante à Princeton en 68, dont il était la vedette. Et alors là, c'est intéressant par rapport au problème de la CIA. C'est organisé par une association dans laquelle précisément il n'y a plus d'argent de la CIA, il n'y a plus que d'argent de la Fondation Ford. Et donc il va y aller, et je crois que c'est ce contexte. Alors, deuxième élément du contexte, jusqu'à présent, je crois, il le dit quand même un peu dans ce truc, il avait une vision des États-Unis qui était celle de la gauche, de la rive gauche, au fond, sans plus, puisqu'il n'était passé à New York que 2 fois, en allant au Mexique en 52 et en 53, et il n'avait jamais mis les pieds en Amérique. Voilà.
Et alors, en allant aux sources, il découvre une autre Amérique.
Une autre Amérique, qui est effectivement l'Amérique de la révolution culturelle.
Voilà. Alors, l'écho de Revel en Amérique, l'écho de Revel dans le monde hispanique, je ne me réveille pas, disait-il, sans lire 2 journaux en langue espagnole, ni non plus 2 journaux en langue italienne. Alberto Toscano est en ligne. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Oui, il n'y a pas toujours eu des livres couronnés de succès. Je sais pas, pour l'Italie en 1958, qui a été réédité chez Bouquin, n'a pas eu une circulation extraordinaire, mais c'était un très beau livre sur votre pays. Sans illusion, cependant, sur l'Italie. Vous autres, vous êtes des matérialistes, dit-il, des Italiens, mais en même temps, c'est vous autres qui m'avez appris la beauté de l'architecture civile et qui m'avez donné de l'histoire de l'art une vision, comment dire, charnelle, quotidienne.
Exactement. Et ces expressions, on les retrouve dans les articles, de nombreux articles que la presse italienne a publiés dans les derniers jours au sujet de Jean-François Revel. Autant le confrère américain qui parlait tout à l'heure s'étonnait de la rareté des articles de la grande presse américaine sur le décès de cette grand intellectuel français, et autant que on peut dire que pour l'Italie, vraiment toute la presse est mobilisée. Et il est impressionnant, le Corriere della Sera a fait une page entière consacrée à sa mémoire, où l'article principal a été rédigé par Sergio Romano, ancien ambassadeur, l'un des intellectuels le plus brillant de l'Italie actuelle, et vraiment, il disait comme les critiques qu'on retrouvait dans l'article, dans le livre de 58 de Jean-François Revel pour l'Italie, sur l'Italie, ont été des critiques constructives, ont été des critiques qui ont aidé les Italiens à interpréter eux-mêmes, et il disait, c'est intéressant de le relire aujourd'hui.
Ayant filtré l'Italie de ses mythes, expliquait-il, comme on décante un vin, ça c'est une comparaison à la Revel, j'ai passé le reste de ma vie à en respirer l'arôme, et donc l'Italie n'a pas été ingrate. On va parler bientôt, Alberto Toscano, du rôle de Revel comme journaliste. Un de ses modèles, c'était Indro Montanelli.
Oui, Indro Montanelli, sans doute journaliste italien qui a laissé un signe important, qui a traversé toutes les périodes de l'histoire de l'Italie récente, et d'ailleurs, Il Journal, le quotidien créé par Indro Montanelli en 1974, a vécu la disparition de Jean-François Revel en publiant une page d'un dialogue entre Jean-François Revel et François Feito, qui a été le premier correspondant à Paris pour Il Journal dans les années 70. Un dialogue extrêmement intéressant, mais je voulais souligner le fait que même la presse régionale et provinciale italienne, je pense à l'Écho di Bergamo, un quotidien de Bergame qui vend 40 000 exemplaires, il a fait une page sur Jean-François Revel. Réellement, les Italiens ont vu un Jean-François Revel, un ami. Et ils ont vu un ami aussi par rapport à certains intellectuels français qui, dans une époque révolue et malheureusement, je répète et je souligne, malheureusement aussi dans l'époque actuelle, ont une position ambiguë et peut-être pire par rapport à cette plaie, à cette souvenir, à ce souvenir tragique de l'histoire récente de l'Italie qui est le terrorisme. Quand on voit des intellectuels français qui écrivent des préfaces et des postfaces à un livre d'un ancien terroriste, les Italiens voient en Jean-François Revel l'homme qui ne les a pas abandonnés dans le moment du besoin.
Merci à vous, Alberto Toscano. Alors, puisque j'évoquais Philippe Meyer, la figure d'Indro Montanelli, grand patron de presse sous Berlusconi, puis contre Berlusconi, on pourrait peut-être en venir à l'expérience que vous avez eue, vous, avec Revel, patron de l'Express, sous Jimmy Goldsmith, puis contre Jimmy Goldsmith. Qu'est-ce que c'est un grand journaliste pour lui, un bon journaliste? C'est quelqu'un qui va aux sources, disait-on tout à l'heure, mais encore.
C'est quelqu'un qui travaillait, ça ce qui est certain, c'était qu'à l'exemple de Revel lui-même, la rédaction sous sa direction était une rédaction qui travaillait considérablement, d'ailleurs pas forcément en s'en rendant compte, parce que je ne me souviens pas que le travail ait été pénible, même si dans certains cas il était capable de vous persécuter jusque sur un lit d'hôpital pour que vous faire relire un papier que vous aviez envoyé avant de partir, et pour vous demander des corrections qui lui paraissaient s'imposer, ou en tout cas pour vous demander de confirmer que c'était bien ce que vous aviez voulu dire. Moi, j'ai un souvenir d'avoir travaillé considérablement, et en même temps, j'ai le souvenir que ce travail ne pesait en rien, d'abord parce que la manière dont il animait le journal était celle de quelqu'un, si vous voulez, quand on envoyait son papier, sa première copie, on avait l'impression qu'on avait écrit à quelqu'un, et ça revenait en effet, ça c'était son côté prof, avec des annotations dans la marge, qui n'étaient pas des annotations annotations autoritaires, mais qui étaient des annotations, je dirais, sérieuses et professionnelles. Est-ce que vous êtes sûr de cette information? Est-ce que vous pensez que ceci ne manque pas, que dans votre démonstration, il ne manque pas un passage, quelque chose qui nous permettrait de mieux adhérer à ce que vous dites? Enfin, bref, il y avait... Pour tout vous dire, j'ai mesuré, parce que je n'avais jamais travaillé dans un journal, c'est sous sa direction que j'ai quitté la recherche pour devenir journaliste, et donc je ne savais pas ce que c'était qu'un journal. J'ai cru d'ailleurs que c'était partout comme ça l'était sous lui. Je me suis aperçu qu'il n'en est rien, mais c'est quand il est parti après son conflit avec Jimmy Goldsmith en 81 que j'ai compris l'importance que Jean-François avait eue dans la fabrication de l'Express, parce que j'ai vu la même rédaction sans lui se relâcher.
Parce que la même rédaction était restée pluraliste, puisqu'il y avait des gens de toutes opinions quand même qui s'exprimaient, mais le pluralisme pour lui, c'était pas la juxtaposition des opinions.
Non, c'est-à-dire que d'abord, il était toujours intéressé par la discussion. Et d'ailleurs, tous ceux qui l'ont connu, même brièvement, savent que être d'accord avec lui ou être en désaccord avec lui, c'était toujours quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que si vous étiez en désaccord, la manière dont il aimait discuter, par écrit ou par oral, vous forçait à développer votre propre argumentation. Si vous étiez en accord avec lui, vous n'aviez plus qu'à vous reposer, parce qu'en général, il était beaucoup mieux informé et beaucoup plus brillant que vous.
Oui,
et
mais conséquent, lui n'était pas toujours d'accord avec lui-même. La discussion, non. C'est de soi-même à soi-même. Oui, le pluralisme, absolument. Il est en chaque homme. Chaque homme est pluriel, c'est ça qu'il disait.
Il avait sûrement attrapé des philosophes grecs un certain nombre de pratiques, et celle-là, sans aucun doute. C'est curieux de voir quelqu'un qui a eu des convictions. On parlait tout à l'heure de la manière dont les Italiens les ont ressenti, et Montanelli en effet était plus pour lui qu'un modèle, c'était aussi un ami, ils ont eu vraiment une amitié, des conversations constantes. C'est curieux de voir un homme qui avait des convictions qu'il affirmait avec autant de fermeté, avoir par ailleurs une capacité à la discussion, et comme vous venez de le dire, à la discussion avec lui-même, aussi constante.
Mais alors, d'un article, il exigeait qu'il n'ait pas de faiblesse, qu'il soit toujours d'un rythme tel que le lecteur ne descende pas. Moi, ça c'est l'obsession qu'on a quand on est, vous savez bien ça, Philippe Meyer, animateur de radio, il faut maintenir le rythme d'un tapis roulant. C'était la formule qu'il aimait. Alors, je sais pas, pour maintenir le rythme, on peut peut-être donner la parole à un auditeur. Enfin, c'est pas n'importe qui, c'est Joseph Krulich qu'on voit souvent à votre place, Philippe Meyer. Le journaliste était aussi philosophe. Alors, le journalisme, c'est quoi? C'est une attitude de post-philosophe?
Apparemment chez lui, oui, puisque enfin le livre sur pourquoi des philosophes est un sorte de pamphlet, certes, mais réfléchi, qui exprime une idée banale en fait chez les professeurs de philo, c'est que depuis Hegel, enfin on est dans la post-philosophie. Mais chez lui, il le prenait au sérieux, il considère que la philosophie est en sorte abrogée, même s'il était agrégé de philosophie. D'où, même si c'est plus compliqué, il aurait voulu faire une thèse, visiblement, si j'en crois ses mémoires, le voleur dans la maison vide, mais une thèse qui n'a pas trouvé de maître, ni Jean Val, ni un autre, sur la philosophie de l'art, visiblement, enfin, post-hegelienne. Mais il en a effectivement, comme vous savez, il en a gardé des articles qui ont été réunis dans un livre, il y a bientôt 8 ans, si je me trompe, sur, qui est pas inintéressant d'ailleurs, sur l'histoire de l'art.
Alors donc, la philosophie ne consistant plus à faire de la métaphysique, il s'agissait d'accompagner la réflexion sur l'art, d'accompagner la réflexion sur le droit, d'accompagner la réflexion sur l'histoire, et c'est pour ça que le journalisme exigeait les mêmes qualités de recherche de la vérité et d'entrecroisement des curiosités que la philosophie. Archive Radio France, c'est un bon plaisir qui avait été réalisé en 1988. Par Jean-Maurice de Montremier, qui sera donc rediffusé fin mai sur notre chaîne.
Je crois d'une part que si on veut connaître aujourd'hui l'évolution du monde, il faut connaître, je m'excuse, mais il faut connaître l'économie, enfin, il faut travailler, il faut connaître également la démographie, par exemple. Je trouve un bon cours de démographie, c'est 1000 fois plus passionnant, n'est-ce pas, que des vaticinations incohérentes de Heidegger. Ça nous fait beaucoup plus comprendre le monde contemporain. Bon, qu'est-ce que c'est réellement que le sous-développement, par exemple? En étant un petit peu violent, je dirais que 9 fois sur 10, je ne lis que des bêtises sur ce sujet. Et des bêtises qui reposent sur une absence d'information. Bon, qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est avant tout emmagasiner des informations et savoir les utiliser, savoir les construire dans une compréhension. Alors ça, ça existe. Nous avons toutes les ressources. Nous n'avons jamais été mieux informés qu'aujourd'hui. Et ça, c'est ça que l'enseignement doit donner. Mais aussi, nous ne sommes pas sortis de rien. Donc la tradition intellectuelle doit être enseignée. Vous savez, l'homme pensant, c'est une création très récente. 2000 ans d'histoire de la pensée, 2500 ans d'histoire de la pensée, depuis les débuts de la pensée grecque, ça, c'est très peu. Par conséquent, cette tradition-là, il faut la connaître. Il est très intéressant, dans la partie historique, de saisir comment nous avons abouti à la culture que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela ?
Bon ben, je ne vais pas être impertinent, Pierre Grémion. En même temps, toutes ces connaissances, Revel le disait lui-même, c'est inutile. Oui, parce que le lecteur ne les cherche pas nécessairement.
Oui, mais je crois que si on se reporte au livre « Pourquoi des philosophes », ce qui frappe aujourd'hui, c'est pas tellement l'aspect pamphlet. Et c'est une véritable analyse de qui a évidemment un contenu philosophique. Il a deux bêtes noires, en quelque sorte, c'est Bergson et Heidegger. Mais derrière ça aussi, et je crois qu'on va toucher quelque chose d'important chez lui, il y a une critique très virulente de la Sorbonne et des, disons, de cette espèce de, comment dire, de... Finalement, la philosophie a été réduite par la Sorbonne dans une espèce d'histoire des doctrines vagues et molles. Et au fond, son idée, c'est de sortir de ça. C'est pas du tout d'abandonner la philosophie. Et il va faire une histoire de la philosophie occidentale. Et je voudrais relier ça à quelque chose qui m'a beaucoup frappé, et je crois qu'il faudrait en parler, c'est qu'il était tout à fait un passionné du livre de poche. Et il était, et d'ailleurs il y a eu une enquête dans la revue Les Temps Modernes en 1964, où il était un partisan du livre de poche, et pourquoi ? Précisément parce que ça permettait au lecteur d'avoir directement un accès au texte, au grand texte de l'Antiquité, ou même de la philosophie classique, sans passer par ce qui, alors pour lui, était véritablement la fin des fins, c'est-à-dire les morceaux choisis, organisés par les professeurs. Et je crois que c'était un point très important. Et on retrouve alors, deuxièmement, à propos d'histoire de l'art, je m'excuse d'être...
Non mais restons sur le journalisme, peut-être, on reviendra peut-être
alors,
sur
voilà, c'est
l'intuition
tout,
artistique dans un instant, mais vous avez bien raison de dire que c'était aussi un grand éditeur. Il a découvert Emmanuel Todd, le fils d'Olivier, avec qui il travaillait à l'Express. Alors, un éditeur, passionné par le livre de poche, marié avec le succès, qu'il s'agisse des livres qu'il lance ou des livres qu'il écrit lui-même, un directeur d'un journal très influent, l'Express. Et en même temps, je reviens à ma question impertinente que vous avez contournée, Pierre Grémion, mais Philippe Meyer ne va pas lui l'écarter. La connaissance est inutile, puisque le lecteur ne la cherche pas nécessairement.
C'est une expression que vous empruntez à Revel lui-même.
C'est le titre d'un de ses livres.
C'est le titre d'un de ses livres. Peut-être que la connaissance est inutile, mais ce qu'il montre dans son livre, comme il l'a montré dans son travail de journaliste et de publiciste, comme on disait autrefois, c'est que si la connaissance est inutile, l'ignorance est certainement nuisible. Et qu'elle conduit d'ailleurs à une situation qui n'est peut-être pas très loin de celle que nous connaissons, c'est-à-dire où des cléricalismes et des académies invisibles triomphent et fonctionnent, non pas par la discussion, qui était, comme vous le disiez tout à l'heure, un des airs que Revel respirait naturellement, mais par l'intimidation. Et par conséquent, en effet, la connaissance était pour lui le moyen d'abord de se faire soi-même une opinion, un jugement. D'ailleurs, quand on relira ses éditoriaux, on remarquera que c'est un des rares éditorialistes dont les articles sont aussi des articles d'information. On avait toujours intérêt à lire un éditorial de Jean-François Revel, quand bien même on aurait eu une antipathie spontanée et définitive pour lui, parce que la lecture de ses éditoriaux était toujours... une information, et il y avait souvent dans des éditoriaux qui étaient quelquefois courts, les deux colonnes qu'il avait dans Le Point par exemple, et celles qu'il avait dans l'Express, il y avait souvent plus d'informations qu'on en trouvait dans des articles qui étaient censés informer et qui moulinaient en effet la même ignorance satisfaite qui est quand même infiniment moins agréable, moins utile que la connaissance même fragile et même aventurée.
Qu'est-ce que c'est que l'utilité sur la porte d'un de ses professeurs quand il était élève des Jésuites, il y avait affiché que nul n'entre ici s'il souhaite faire quelque chose d'utile. Vous nous avez pas parlé des déjeuners à l'Express, parce qu'il faut aussi qu'on parle, en compagnie d'Emmanuel Giraud, de Jean-François Revel, l'épicurien. Autant de son prédécesseur,
Jean-Jacques Servan-Schreiber, c'était plutôt le pique-nique sur la terrasse, léger. Hein.
Revel était un type qui avait plein d'idées concrètes. Par exemple, quand il a pris la direction de l'Express, il a tout de suite compris qu'il fallait déménager le journal. S'il voulait faire des changements de contenu, il fallait faire des changements de personnes et que les déménagements, c'est comme les bombardements, mais en pire, disait ma grand-mère, ça permet de perdre en route un certain nombre de gens dont on sait qu'on n'a vraiment pas le moindre besoin. Et ce qui est certain, c'est que, en tout cas, j'ai la copie de cette note, même pas sa copie, j'ai l'original de cette note qu'il m'a offert. L'une de ses premières mesures comme directeur a été d'écrire à Maurice Rivet, qui était le directeur administratif de l'Express, en lui disant que si on continuait à servir au dîner de bouclage, qui était donc le dîner hebdomadaire autour duquel on se retrouve, parce qu'on met la dernière main à la matérialité du journal, que si le dîner de bouclage continuait à être aussi mauvais, enfin, s'il devait être aussi mauvais la semaine suivante et arrosé par une piquette aussi épouvantable, sa lettre de démission était prête. Eh bien, la semaine suivante, je peux vous dire que le dîner de bouclage a été infiniment meilleur, que la piquette n'était plus de la piquette, et cependant, elle coûtait un prix tout à fait honnête, car il ne jetait pas l'argent par les fenêtres.
Donc, au temps de Giroud, c'était plutôt la salade avec une poignée d'eau. Alors, quand vous dites d'ailleurs qu'il aimait se débarrasser en route d'un certain nombre d'impédimentas...
C'était une nécessité quand il a pris la direction.
Quand il dirigeait avant les pages littéraires de France Observateur, il avait dit, il n'y a plus besoin de critiques musicaux, c'est tous des parasites des festivals qui se font loger aux frais des festivals. Je vais prendre un inconnu et flanqué. Alors c'était Michel Guy, c'était pas encore l'inconnu et flanqué qui était alors un peu plus tard Philippe Meyer. Et puis les critiques d'art, il les avait aussi tous virés ou remplacés. Et il avait remplacé ça par une assemblée, chacun parlait au magnétophone et c'était publié anonymement. Je vais pas présenter Emmanuel Giraud comme critique gastronomique.
Non, pas vraiment.
Il vaut mieux.
Chroniqueur à caractère gastronomique peut-être, mais une fois n'est pas coutume, en lieu et place de mes habituelles pitreries, ma chronique de ce soir se drape d'une sobriété toute respectueuse afin de rendre un dernier hommage à Jean-François Revel. Grand gastronome devant ses pairs, vénérable membre du Club des 100, Jean-François Revel mérite en effet un hommage à la hauteur de son érudition gastronomique. Les gourmets lettrés restent encore aujourd'hui en admiration devant son festin en parole. Remarquable essai sur la sensibilité culinaire de l'Antiquité à nos jours, sans cesse réédité depuis 1979, complété, réactualisé pour coller à l'esprit du temps et au goût de l'époque. Mais la sensibilité gastronomique personnelle de Jean-François Revel n'était pas faite que de papier, et c'est à travers toute une palette pléthorique d'adresses gourmandes, qui va de l'élégante table étoilée à la gargote bistrotière des plus canailles, que l'académicien mettait en pratique ses principes gourmands, accompagnés par quelques-unes des plus fines gueules de Paris et autres belles fourchettes, comme vous, Philippe Meyer. Et contrairement à l'image un peu austère qu'il pouvait laisser parfois paraître, eh bien, c'est avec une certaine espièglerie qu'il inscrivait sa passion pour la bonne chère au cœur même de son personnage, Revel, parce que Revel, pseudonyme, hein, que les plus sérieux de ses lecteurs, de ses essais polémiques, auraient pu associer avec, je ne sais moi, quelques obscurs choix philosophico-linguistiques, quelques mystérieuses raisons familiales ou quelques anciens faits d'armes dans la résistance. Eh bien non, Revel n'était autre que le nom d'un fameux bistrot du premier arrondissement, véritable lieu de pèlerinage, dont la daube, et oui, la daube, exerçait un tel pouvoir d'attraction que l'athée Jean-François Ricard, converti depuis belle lurette à la religion du gueuleton, se fit baptiser de ce nom, de cette sainte chapelle. Et comme toute célébration ne se conçoit pas sans libation rituelle, Jean-François Revel faisait régulièrement honneur à ses convives avec un certain sens de l'excès. Incapable de concevoir un moment commensal placé sous le signe de l'eau des viands, il lui était alors plus facile, disait-il, de boire 3 verres plutôt qu'un et 6 plutôt que 3. Alors n'allez pas croire pour autant que Jean-François Revel était un immortel du gosier, imbattable pilier, stoïque, que rien ne faisait vaciller. Non, l'écrivain avait en effet trouvé plus fort que lui, plus excessif encore, au Mexique, en la personne de Luis Buñuel. Oui, Buñuel avec lequel il partageait le goût exigeant des liqueurs amères, comme le mandarin, le claxin ou le picon. Des liqueurs aujourd'hui en voie d'extinction ou même carrément disparues, mais qui faisaient à l'époque les délices des deux compères, à tel point que même que l'excès allait renverser les aspirations de Revel, qui, au bout d'un certain laps de temps, eh bien, ne rêvait plus que d'eau minérale. Ce à quoi Buñuel répondait « Taratata, il ne faut jamais laisser le foie se reposer un seul instant ».
alors que désormais Jean-François Revel repose en paix. Mais je vous propose de rendre un dernier hommage apéritif à l'homme de gueule autour d'une liqueur amère, alors que j'ai eu un peu de mal à trouver, parce que aujourd'hui les amers n'existent plus en France. C'est un amaro italien. Hommage non pas à l'amertume de certaines de ses réflexions qui pouvaient parfois transparaître de quelques-uns de ses ouvrages, mais bien hommage à l'exigence gustative que requiert l'appréciation d'une telle liqueur, ce goût puissant qui a malheureusement tendance à disparaître au profit aujourd'hui de saveurs plus sucrées ou plus douceâtres.
Je trouve ce que vous venez de dire absolument exact, et notamment sur l'espièglerie avec laquelle Revel s'amusait à surprendre ses amis gastronomes. Il était en effet capable, moi, quand il a quitté l'Express, on s'était donné pour règle de déjeuner ensemble une fois par mois. Un coup c'était lui qui choisissait le restaurant, un coup c'était moi. Évidemment, il s'agissait chaque fois de surprendre l'autre. Moi, je n'y ai jamais réussi. Lui, c'était... Alors, un jour, il vous donnait en effet rendez-vous. Il vous appelait, il disait, bon, écoute, alors tu prends le métro, tu descends à Corentin Cariou. On se disait, mais comment est-ce qu'il connaît Corentin Cariou? Enfin, le métro Corentin Cariou. Bon, là, alors, il y a une rue qui, il n'y a qu'une sortie, tu peux pas te tromper. Il y a une rue qui monte, et la deuxième rue à gauche, tu verras, il y a un bistrot. J'arrivais en haut de cette deuxième rue à gauche, et de loin, je voyais un truc dans un état de pré-ruine, et à l'intérieur, il y avait Revel. Parce que ça, c'est une des choses mystérieuses, c'est que je n'ai jamais réussi à arriver nulle part avant lui. Même si je prenais un quart d'heure d'avance, il avait 17 minutes, et il était en général attablé, en effet, devant une bouteille dont il avait déjà vidé la moitié, et des saucissons. Et il vous regardait avec un œil en coin, et il disait, c'est ici que tous les mardis, il y a le meilleur plat de côte de Paris. Et on déjeuner d'un plat de côte, en effet, absolument exquis. Et le coup d'après, donc 2 mois plus tard, il vous appelait, il vous disait, bon, c'est mon tour, je crois, cette fois-ci. Alors, écoute, qu'est-ce que tu dirais qu'on se retrouve chez Maxime's à 1 heure? Et là, je lui disais, ah merde, il a pris un coup derrière la tête, là, ça va plus très bien. J'arrivais chez Maxime's, il était au bar, il avait vidé une demi-bouteille de champagne, je l'ai aidé à vider la deuxième moitié, et il avait, là encore, l'œil en coin. Et il me regardait, il me disait, écoute, ici, à cette saison, ils font le meilleur bœuf en gelée de Paris. Et il y avait, en effet, un bœuf en gelée, il serait retourné chez Maxime pour rien d'autre. Pour le bœuf angé, aussi pour la cave, qu'il faut dire a toujours été excellente. C'était comme ça. Il faisait la cuisine lui-même. Et il était plus anxieux quand il faisait la cuisine que quand il a dû passer le concours d'entrée à l'école normale. Il avait mis au point une recette de moule dans sa maison de Bretagne où il était prodigieusement heureux, qui est la maison de Claude Sarraute. Et quand il a... Quand il a essayé sa recette de moule sur Claude Sarraute, sur Françoise Cachin et Georges Liébert, qui sont ses voisins en Bretagne, et sur moi qui était en vacances à côté, et il était, mais Claude nous a raconté qu'il avait essayé 3 fois avant, alors, et c'était en effet absolument excellent. Il était capable de faire les choses les plus simples, comme par exemple le meilleur rôti de bœuf que je connaisse avec des pommes de terre sautées et des petits pois, et par ailleurs, en effet, de ses origines marseillaises, ville qu'il avait beaucoup, qu'il aimait beaucoup et dont il parlait très bien, comme d'un homme qui avait su vraiment connaître cette ville et en profiter, il avait aussi ramené ce goût de ce genre de liqueur.
Alors quand vous dites qu'il faisait lui-même la cuisine, en fait, pour préparer cette émission, j'ai été enquêté sur l'île Saint-Louis, chez Jean-Paul Gardy, l'un des meilleurs bouchers de Paris, et je lui ai demandé un peu, que venait acheter Jean-François Revel? Et là, il m'a dit, bah, à vrai dire, je sais pas très bien, parce que il avait un cuisinier, et c'était toujours le cuisinier qui venait faire les commissions, et on ne voyait seulement que quand le cuisinier n'avait pas voulu lui faire le plat qu'il avait décidé.
Voilà, il faut remonter aux sources, vous voyez, l'enquête apporte d'autres vérités.
Je ne sais pas quel était le boucher favori de Jean-François, peut-être n'était-il pas celui-là, mais en tout cas, je peux vous dire que quand il était en Bretagne, où il restait le plus longtemps possible, c'est un endroit qu'il a aimé profondément, je peux vous dire qu'il faisait la cuisine, qu'il faisait les courses, et que de cuisinier, il n'y avait que lui.
Alors, revenons à la politique. Nous sommes en 80, 81, c'est la fin de sa période à l'Express. Voilà comment elle est restituée par Patrick Besson dans l'Humanité. À ce moment... La radio annonça la terrible nouvelle, il y avait 4 ministres communistes au gouvernement. L'homme se dressa, congestionné, sa fourchette à la main, sa serviette encore attachée autour du cou. « Femme !» dit-il à son épouse. « Taille fin mes crayons, il faut que je sauve notre système socio-économique. » Il quitta la pièce sans un regard pour son vieux volume de Descartes qui avait accompagné toute sa scolarité, sans regarder le portrait de Stendhal qui surplombait le buffet Henri II, et surtout en laissant refroidir définitivement à Lapin Chasseur, son plat préféré, et il jura de ne plus communiquer la recette du lapin chasseur à quiconque avant que la horde socialo-communiste n'ait été boutée hors de France. Alors on va essayer de voir comment a évolué la pensée, l'action politique de Revel à partir de cette période 81, 80 même, en 80, quand il dirigeait l'Express, vous étiez là, Philippe Meyer, l'Express avait titré La vraie vie de Georges Marchais et révélé que le Parti communiste, le parti des dizaines de milliers de fusillés, ne s'était pas donné le plus résistant de ses membres comme secrétaire général. Archives de Radio France, 1980.
J'ai été requis en fonction d'une loi qui a été adoptée en septembre 1942. Et j'ai été requis au mois de décembre de la même année. Je suis donc, comme 700 000 travailleurs de ce pays, une victime de la déportation du travail. Le document qui est publié aujourd'hui par l'Express est un faux.
Alors, on va pas revenir sur cette polémique. Vous savez qu'avant chaque élection présidentielle, on publie des documents. Et souvenez-vous des débats qu'avait marché avec Revel à la radio, à la télévision. Mais pourquoi, Revel, ne posez-vous pas de questions sur la sidérurgie? Qui vous a payé pour ne pas payer de poser de questions sur la sidérurgie? Il était devenu un des principaux adversaires du Parti communiste. Qu'est-ce qui s'était passé dans les 15 années avant 1980, pour que Pierre Grémion, un homme qui était un intellectuel de gauche, même s'il n'était pas de la gauche, de la rive gauche, un homme qui avait été proche de François Mitterrand, un homme qui s'était présenté aux élections législatives sous la houlette de la Fédération de la gauche de François Mitterrand, un homme qui avait été, il avait eu une des situations les plus bouffonnes de France, il était ministre de la culture,
du contre-gouvernement,
de
la FGDS.
Oui, c'est un moment, François Mitterrand avait formé un contre-gouvernement.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut restituer ça? Alors, dans une histoire longue, vous consacrez à cette période 68-81 un livre aux éditions Esprit. Qu'est-ce qui se passait entre 68 et 80 qui a expliqué l'évolution de Jean-François Revel? Qu'est-ce qui se passait du côté de la droite? Qu'est-ce qui se passait du côté de la gauche?
Bon, alors, bon, sans faire le cuistre, c'est toujours très difficile parce que vous me posez des questions tellement générales.
Mais je sais que vous allez dire, bon, premièrement,
non,
deuxièmement.
Je crois d'abord qu'il faut comprendre qu'il est dans une position privilégiée parce qu'il connaît très bien Mitterrand. Et je pense qu'effectivement, une des dimensions de son, du rôle qu'il va acquérir, du rôle politique, c'est sa connaissance de Mitterrand. Deuxième élément, que j'ai découvert d'ailleurs en lisant ses mémoires, c'est qu'il était un grand ami d'Althusser. Et donc, c'est très curieux, il se retrouve, si vous voulez, au début de la décennie de 70, alors que Althusser, l'althussérisme fait absolument des ravages dans le milieu intellectuel. C'est que Aron appelle un marxisme de quartier latin, pour le coup. Et d'autre part, il saute du train en marche, effectivement, quand Mitterrand signe le programme commun. Alors là, je crois que, si vous voulez, peut-être que Philippe Meyer, qui l'a mieux connu que moi, mais je ne l'ai pas connu, il était plutôt, pour moi, si vous voulez, Revel, c'est un voltairien. Il y a deux choses qui permettent de le définir. Il est contre les censures et contre les dévots. Et je pense que c'est une chose qui, si vous voulez, est un élément d'explication. D'autre part, c'est la rencontre avec l'Amérique. Et ça, c'est quand même un vrai tournant dans une conjoncture historique. Et on l'a dit, il pratiquait l'information de première main. Et il faut pas oublier que après cette période, Servan-Schreiber, qui se termine très très mal, parce que Servan-Schreiber sabote lui-même sa carrière politique, je vais pas entrer dans les détails, l'option, si vous voulez, programme commun arrive, alors qu'il a découvert qu'il a écrit que l'Amérique était plutôt la voie de la révolution. Et d'autre part, alors, du côté de l'Union soviétique, n'oublions pas que la même année, Andrei Amalric publie « L'Union soviétique survivra-t-elle » en 1984, qui est un livre qui n'est pas pris au sérieux à Paris, mais que lui cite, si vous voulez. Donc on a une conjoncture internationale.
Est-ce qu'on peut encore préciser ce paysage que vous dessinez? Alors, l'Union soviétique survivra-t-elle, demande Amalric. Oui. C'est l'époque où est publié en France Solzhenitsyn. C'est un choc extraordinaire, même
74.
Si on l'a complètement oublié maintenant. C'est l'époque où le modèle est Sakharov. Il y a une partie de la gauche qui s'intéresse au cas Solzhenitsyn. pas Le Monde, mais Le Nouvel Observateur, L'Express. Et il y a une partie de la gauche qui évolue. Et vous savez ce que dit François Mitterrand à ce moment-là ? Peu importe si ce que dit Solzhenitsyn est vrai ou faux. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que Solzhenitsyn puisse être publié. C'est-à-dire que François Mitterrand, il s'intéresse à la conjoncture politique. Tiens, il y a un moment où il y a un rapport de force en Union soviétique qui permet de publier Solzhenitsyn. Les idées de Solzhenitsyn ou les vérités de Solzhenitsyn lui importent moins que le jeu du moment.
Oui, non mais attendez, il faut aller quand même au centre de l'affaire, c'est-à-dire que Revel lance au début de la décennie une collection qui s'appelle Liberté 2000, car c'est quand même le centre du débat, si vous voulez. Et d'ailleurs, cette collection chez Robert Laffont, elle est inaugurée par son livre sur les États-Unis, c'est-à-dire ni Marx ni Jésus, mais il va publier là-dedans, Revel lui-même, bien entendu, ses deux livres, La Tentation Totalitaire et La Nouvelle Censure, mais il va publier Raymond Aron, il va publier Emmanuel Todd, il va publier un livre très important, justement, sur l'Amérique latine, à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure, Carlos Rangel, du Bon Sauvage au Révolutionnaire, qui est un livre qui démystifie au fond le révolutionnarisme par projection sur l'Amérique latine. Et par ailleurs, en même temps qu'il fait ça, le succès considérable, alors ça je trouve que ça mérite d'être étudié, excusez-moi, à nouveau mon chapeau CNRS, mais ni Marx ni Jésus, 20 éditions de par le monde, un énorme succès aux États-Unis, alors que à cette époque-là, les Américains ont le moral dans les chaussettes. Mais c'est la guerre du Vietnam. Et voilà qu'un Français agrégé de philosophie de surcroît leur dit, mais non, l'avenir, c'est les États-Unis. C'est formidable, c'est pas tactique, mais il se trouve que c'est un livre qui a un destin considérable.
Mais revenons à François Mitterrand.
Oui.
Les succès l'intéressaient, parce que il y voyait un nouveau rapport de force. Les idées, moins.
Pas du tout.
Pas du tout.
Mais le style, oui.
Oui.
Oui, alors ce qu'il appréciait dans Revel, c'était le style. Et d'ailleurs, dans ce journal absolument que tout le monde connaît, n'est-ce pas, qui s'appelle L'Unité, qui était le journal du Parti Socialiste, et à la fin duquel, dirigé par Claude Estier, qui alors lui, pour le coup, était un progressiste de première grandeur, il y avait un bloc-notes de François Mitterrand, et dans ce bloc-notes, quand même, la défection de Jean-François Revel a été noté par le premier secrétaire en disant malheureusement il ne sera pas des nôtres au moment de la victoire. Ça a été quand même noté. Mais mon érudition ne va pas jusqu'au point de vous citer la date.
Dans le bloc-notes François Mitterrand, il y avait parfois de violentes attaques contre les communistes, mais c'était quand les communistes lui faisaient défaut, polémiquaient avec lui, ne négociaient pas comme il souhaitait, et pas nécessairement à cause de l'attachement viscéral qu'avait encore le Parti communiste l'Union soviétique. Radioscopie, Jean-François Revel, 1976. Pour lui, il fallait dissocier la gauche de toute trace de complicité avec le totalitarisme.
Les notions de droite et de gauche sont des notions intérieures à la démocratie, intérieures au système démocratique, et qui n'ont de signification qu'au sein de ce système. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à une lutte entre les systèmes démocratiques en général et les systèmes totalitaires. Je refuse cette notion qu'un système totalitaire serait la gauche. Je déplore et je dénonce l'équivoque qui amène à la confusion entre l'idéal socialiste et la propagande en faveur de systèmes dont toute la réalité nous montre qu'ils n'ont rien à voir avec le socialisme. Alors si vous voulez, de même par exemple que pendant la guerre, il y avait une lutte à mort entre les démocraties et les totalitarismes, et que au sein des démocraties, les gens de droite et de gauche, de toute manière, se réunissaient pour lutter contre les totalitarismes qui menaçaient leur existence même, de même, j'estime qu'aujourd'hui, nous nous trouvons devant une situation identique. Les démocraties, le camp des démocraties, toute imparfaite qu'elle soit, régresse chaque année davantage dans le monde.
Enfin, vous étiez philosophe, vous l'êtes toujours. Vous étiez homme de gauche, l'êtes-vous encore?
Absolument, car je crois que la première...
Tout le monde n'est plus d'accord là-dessus.
Ah, bien sûr, parce que tout le monde n'est plus d'accord, en raison précisément de cet équivoque à laquelle j'ai donné le nom de docilité au stalinisme, ou de stalinisme élargi, qui fait que en fonction de situations politiques, à mon sens, mal analysées, on continue à croire que le Parti communiste, les partis communistes ou les systèmes communistes notamment, réalisés, ont quoi que ce soit à faire et à voir avec l'idéal de la gauche en général, tel qu'il est défendu par toute une tradition depuis le XVIIIe siècle.
Philippe Meyer.
Je trouve que, d'abord, j'ai beaucoup de plaisir à réentendre cette voix. En 76, une voix jeune et vigoureuse. Et je consonne absolument à ce que Jean-François Revel vient de dire. Je pense que si la justice, la responsabilité, la vérité, la liberté et le voltairisme auquel Pierre Grémion a fait très justement allusion, c'est-à-dire ni censure, ni panurgisme, je pense que oui, il venait de là et il y est resté. Et que, en l'occurrence, c'est la gauche, enfin, vous savez, je ne sais pas si c'est, je pense que ça ne l'aurait pas ennuyé qu'on cite à son propos Pierre Desproges, mais il y a dans un sketch de Pierre Desproges quelque chose à quoi Jean-François Revel vient de me faire penser. Desproges dit, c'est terrible, dans la vie, il faut toujours choisir fromage ou dessert, la gauche ou Mitterrand.
C'est-à-dire que, on va peut-être savoir maintenant ce que pense vraiment Philippe Meyer, parce qu'il ne se dévoile pas dans l'esprit public le dimanche matin. Avait eu une évolution doctrinale de la gauche, celle qui s'était esquissée dans la critique du totalitarisme qu'on évoquait, celle qui s'esquissait par le contact avec l'expérience social-démocrate suédoise, avec les États-Unis. Bref, si ça avait été Rocard, dont Revel a toujours dit que c'était un homme politique de qualité, s'il n'y avait pas eu François Mitterrand, qui a mis les questions doctrinales sous le boisseau au nom de l'exercice du pouvoir, Revel serait resté à gauche.
Oui.
Et vous aussi, Philippe Meyer.
Je croyais que je vais répondre à une provocation aussi grossière. Je vais répondre pour Jean-François, en tout cas. Enfin, si tant est que je sois fondé, mais ce qui est certain, et il se trouve que j'ai été l'artisan de leur rencontre, celle de Rocard et celle de Revel, il est absolument certain qu'ils étaient tout à fait, peut-être pas sur toute chose, mais que sur l'essentiel, oui, évidemment, bien sûr. Oui.
Mais il faut quand même aussi parler de la rencontre entre Revel et Aron. Parce que ça ne se fait pas de façon simple. Dans le Pourquoi des philosophes, plus exactement dans la Cabale des dévots, où Revel d'ailleurs très intelligemment dit, d'ailleurs beaucoup de professeurs ont du succès parce que les œuvres ne sont pas traduites. Et il prend dans le même paragraphe Merleau-Ponty et Aron. Il dit, croyez-vous que si Max Weber était traduit, la thèse d'Aron aurait eu un tel succès? Et encore plus pour les Merleau-Ponty, car il détestait Merleau-Ponty, si Goldstein, qui avait écrit sur la structure de l'organisme, avait été traduit. Bon, deuxième chose qui est très intéressante, je crois, dans l'évolution des rapports des personnages, c'est l'importance de son second mariage, parce que ça va l'introduire dans le salon d'un écrivain américain, Mary McCarthy, que fréquente Aron. Mais dans l'éloge écrit au millimètre qu'il rédige à la mort d'Aron, qui s'appelle Un aristocrate de l'esprit, on voit très très bien que s'il fréquente le même salon, il le fréquente à la manière des salons d'autrefois, c'est-à-dire qu'ils font tout pour s'éviter et de pas s'adresser la parole. Et en fait, c'est l'Express qui va les réunir. Et là, Philippe Meyer a été le témoin direct au fond de cette rencontre.
L'Express va aussi les désunir.
C'est une rencontre tardive.
L'Express va aussi les désunir et Raymond Aron ne le soutiendra pas contre le propriétaire de l'Express et il dira Raymond Aron, c'est un homme qu'on consultait surtout et qui ne conseillait en rien. Alors voilà un homme qui a connu bien des déceptions politiques et puis de moins en moins, j'aurais qu'on finisse par ce thème, peut-être d'émotions esthétiques. Si ça lui arrivait encore parfois, dit-il, dans ses mémoires, à la vue de tels tableaux dans un musée d'Italie ou à l'écoute du trio à l'archiduc de Beethoven.
évoquant Jean-François Revel et la musique, je me souviens que j'avais fait avec lui un jour une émission où je lui avais demandé de choisir des œuvres et de raconter ses relations avec elle. Et il avait tout de suite choisi le concerto pour piano de Grieg. Et je lui avais demandé pourquoi. Il m'a dit parce que le pianiste se jette tout de suite. Et en effet, le concerto commence par quelques mesures du piano seul. Et l'orchestre le rejoint ensuite. C'est pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui lui ressemble dans cette façon de se jeter dans le...
Alors, à la fin du voleur dans la maison vide, son volume de mémoire, que sont nos amis devenus, demande-t-il, que sont nos émotions esthétiques devenues? Et puis, il cite un proverbe, c'est comme l'eau qui est là à la surface de la terre, une petite mare, et l'eau va disparaître. Et il dit, c'est un proverbe bouddhiste. Alors, il faut quand même évoquer ce dernier grand succès de Jean Revel, de Jean-François Revel. Voilà un homme qui était devenu au contact de la Compagnie de Jésus agnostique, et qui a terminé avec un fils orthodoxe, un fils juif, et puis le fameux Matthieu Ricard, le moine bouddhiste, avec qui il a écrit un livre best-seller. C'est de ça qu'on se souvient Mathieu maintenant, Ricard, quand savant. On parle de Revel.
Un homme qui était très avancé dans des études de biologie dans lesquelles on dit qu'il avait vraiment, pour lesquelles on dit qu'il avait un talent très remarquable, en tout cas François Jacob qui connaît quelque chose le dit, et puis qui, à l'exemple de sa mère, parce que la première femme de Jean-François s'était elle-même faite bouddhiste, et c'est par ce truchement que Mathieu, enfin qui en parlerait mieux que moi, mais dans le livre on raconte ça, c'est par ce truchement que Mathieu avait été en contact avec le bouddhisme, et c'est à partir de là qu'en effet il a quitté et l'Occident et l'activité scientifique qui était la sienne et qui lui promettait un avenir intellectuel très brillant, pour devenir je sais pas comment on dit, le moine, le bonze, qu'on connaît maintenant beaucoup et qui est l'un des proches collaborateurs du Dalai Lama.
Et alors quand votre fils vous renvoie une question, tu as consacré, dit-il à son père, ta vie à paraître et peut-être pas seulement à l'être, qu'est-ce que l'homme de raison répond?
Écoutez, ce que Jean-François a répondu, en tout cas à mon avis, vaut, et que ça, je vois pas comment on pourrait dire mieux que lui sur quelque chose qui le concerne au premier degré. Je critiquerai plus volontiers la question que la réponse. Je crois que la question est un peu facile. Je ne crois pas que Revel ait le moins du monde consacré sa vie à paraître. Franchement, c'est vraiment pas quelque chose qui, pour tous les gens qui l'ont même peu approché, qui ont été ses collaborateurs occasionnels, comme pour ceux qui ont eu la chance de le connaître davantage, c'est sûrement pas quelque chose qui a été le moins du monde un moteur de son existence. Paraître vraiment, franchement, alors dans les gens qui exercent ou qui ont exercé des métiers publics que j'ai rencontrés, côtoyés, avec qui j'ai collaboré ou contre qui j'ai pu me disputer, j'aurais du mal à citer quelqu'un chez qui le paraître ait moins été un moteur que chez Jean-François Revel.
Alors, un autre élément de la question du fils, l'homme de raison. Est-ce que l'homme de raison, qui était le père, était un rationaliste? Peut-être pas,
ça
non
sûrement
plus.
Sûrement pas, non. Ça, sûrement pas. Sûrement pas. Non, non, c'était un homme de raison en ce que ben, Pierre vient de le relire avec ardeur pour les besoins de cette émission le confirmera, mais sûrement pas un rationaliste.
Oui, je trouve qu'il y a un document très intéressant, c'est l'entretien fait par Olivier Todd avec lui dans Le Point au moment où paraissent ses mémoires. Et Todd lui dit, finalement je crois que tu es plus un empiriste qu'un rationaliste. Et je crois que c'est effectivement une assez bonne définition, y compris pour l'introduction. Ça nous ramène, si vous voulez, à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'information et également sur l'art. Par exemple, sur l'art, il considère que l'histoire de l'art, c'est véritablement une clé. Autant les théories esthétiques des philosophes lui paraissent absolument, j'allais dire, grotesques, enfin inutiles, voire insignifiantes, autant l'histoire de l'art, c'est quelque chose de fondamental pour lui, précisément parce qu'il y a, et c'est très intéressant, il a d'ailleurs fait, il a ressorti de l'oubli dans Preuve en 1964, quelque chose, un auteur qui paraissait totalement ringard, qui était Taine, et il montre précisément que Taine, par son côté empirique, était quelqu'un d'extrêmement extrêmement intéressant au 19e siècle, qu'il a écrit un voyage d'Italie superbe, et que c'est pas son esthétique, sa théorie qui est intéressante, mais c'est vraiment son commentaire des œuvres, etc.
On a fait une émission empirique, là.
Justement, la connaissance pour Revel était précisément, je crois, la source de toutes ses positions et aussi de tous ses plaisirs. Il allait y voir. Et ça, je soutiens absolument ce que Pierre Grémion a dit tout à l'heure sur l'importance de l'information et sur l'importance aussi de l'information pour quelqu'un qui, justement, pouvait aller à la source par sa maîtrise de différentes langues et par son goût du travail. Ça, je pense qu'on ne comprendra rien, Jean-François Revel, si on ne comprend pas quelle place l'information et le goût d'aller voir les choses a tenu dans toute son existence.
Enfin, dites aux auditeurs que la culture peut aussi s'apprendre à la volée. C'était un peu la leçon qu'on a voulu donner avec vous, Pierre Grémion, donc un livre aux éditions Esprit sur 68-81, et Philippe Meyer, le producteur, entre autres, de l'Esprit public. Demain, nous sommes à Rennes, au Tiana, l'immigration vue de Bretagne, et puis à Maitrey, à côté de Tours, dans l'ancienne colonie pénitentiaire, le lieu où a vécu Genet, qui est devenu maintenant un village de la jeunesse. Et Maitrey, c'est ouvert, hein, c'est plus du tout comme au temps ancien. C'est pas l'ancien éducateur qui est Philippe Meyer qui va me démentir. L'émission était réalisée par Perry Legras avec Gilles Gallinaro et Philippe Etienne.